Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 20h, on vous emmène dans les cuisines d'Europe 1 avec Olivier Pouls. Bonsoir, notre critique gastronomique maison. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde.
Bonsoir à Jean-Luc Petit-Renaud.
Bonsoir.
Cette maison est la vôtre, mon cher Jean-Luc.
Ah ben bah oui, je m'y sens bien.
Toutes
voilà.
Ces années, ben ça se voit.
Je suis venu avec mes gamelles d'ailleurs, c'est l'heure.
Bonsoir à vous, Julien Osperandio.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le chef du restaurant doublement étoilé, Taïwan, qui est une maison voilà, avec non seulement une cuisine, mais aussi une histoire légendaire, évidemment, dans la cuisine française et parisienne. On va essayer d'en savoir un peu plus, parce qu'évidemment, avec les... Vous savez qui m'a donné l'idée de ce sujet ? Et peut-être qu'elle nous écoute, c'est ma belle-mère. Parce que j'ai dit, voilà, je vais faire des plats cet hiver-là, parce qu'il va faire un peu plus froid, alors on ne va pas pouvoir se jouer. Je vais faire des agneaux de 7 heures, des pot-au-feu, des coques au vin, des veaux orlof. Elle me dit, mais tu ne pourras pas, avec les économies d'énergie, on n'a pas le droit. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut plus, il faut être un bon citoyen. Donc on va en parler. Mais d'abord, bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Parlons chiffres, parlons concret, avec la hausse justement des prix de l'énergie cet hiver. Combien va me coûter mon gigot de 7 heures ?
Alors, on va d'abord parler électrique, si vous voulez bien.
Oui.
Actuellement, le tarif réglementé du kilowatt est fixé par EDF à 17 centimes d'euros. Alors à titre de repère, si on considère une plaque électrique de puissance 2200 watts qui tourne à 70% de sa puissance pendant 15 minutes pour porter à ébullition l'eau et cuire les pâtes, on obtient une consommation d'électricité de 0,385 kWh. Avec un kWh TTC moyen à 17 centimes cette année, la cuisson des pâtes vous revient à 6 centimes d'euros.
Bon.
Vous avez la base. Pour votre gigot de 7 heures, Pierre, il vous en coûtera donc actuellement 1,54€ avec une plaque électrique.
Bon, 1,54€. Okay.
Voilà. L'an prochain, la hausse d'électricité comme celle du gaz, vous le savez, elle sera plafonnée à 15% selon les annonces du gouvernement. Donc, on a fait le calcul. Il vous en coûtera 23 centimes de plus, soit 1,77€ pour faire cuire votre gigot de 7 heures.
Bon, et si on fait le gaz ?
Si on fait le gaz, le prix moyen du kilowattheure est actuellement à 11 centimes d'euros pour le tarif de base cuisson. C'est-à-dire que pour une plaque d'une puissance moyenne de 3000 watts, soit 0,525 kilowattheure pour 15 minutes d'utilisation,
hein,
bah, on a fait le calcul.
Oui.
Donc pour votre cuisson de pâtes sur 15 minutes, il vous en coûte actuellement 5 centimes d'euros. 1,61€ donc pour votre gigot de 7 heures. L'année prochaine, avec la hausse de 15% plafonnée, il vous en coûtera 1,89€, 28 centimes de plus.
Bon, bah avec ça, on a tous les chiffres. Merci Capucine. Quels sont les moyens de faire des économies tout en continuant à préparer les fameux plats mijotés de cet hiver ?
Ah bah, il y a des petites astuces toutes simples. Utilisez un couvercle pour garder la chaleur, des ustensiles adaptés à la taille du feu. Ça vous permettra d'effectuer des économies de 30% environ. Il y a aussi la possibilité, et c'est utile si vous faites mijoter vos petits plats, d'éteindre vos plaques quelques minutes avant la fin du temps de cuisson. Ça marche notamment pour les plaques en fonte ou pour les vitrocéramiques, puisque la chaleur va continuer à se diffuser un peu plus longtemps, quelques minutes encore avant la fin de la cuisson. Et attention à la fausse bonne idée, si vous y avez pensé comme moi, au mijoteur électrique, c'est très énergivore.
Ah ben voilà, pas comme ça, surtout pas ça. Merci Capucine. Avant de vous donner la parole, chers amis, on va faire un détour puisqu'il est en ligne avec nous. Bonsoir Antoine Bernard de Raymond.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'INRAE, sociologue de l'alimentation, co-auteur de Un monde sans faim, FIM, gouverner la sécurité alimentaire. Ça vous inspire quoi cet hiver sans cocotte minute, si j'ose dire?
Alors, je dirais que avant de cuisiner, il faut s'approvisionner. Et en fait, les Français, en particulier les catégories les plus pauvres, on va dire, ils sont déjà exposés à l'augmentation des prix, indirectement du fait que les prix de l'énergie augmentent, donc ça réduit le budget pour l'alimentation, et puis directement parce qu'il y a aussi une augmentation des prix des produits alimentaires. Donc en fait, ils ont déjà commencé à essayer de se prémunir face à ça en changeant leur manière de s'approvisionner. C'est-à-dire que ils ont déjà commencé à moins consommer des produits les plus chers, comme les viandes, les poissons, à acheter des produits de moins bonne qualité, à changer les magasins où ils vont s'approvisionner.
Mais ça peut tuer un commerce, ça peut tuer une autre forme de commerce, du coup.
Ah bah ça a des effets sur la distribution des transactions entre les différents types de commerce.
Et ben voilà.
Entre la grande distribution et ce qui n'est pas la grande distribution, et à l'intérieur de la grande distribution, entre les hypermarchés classiques et ce
Donc
qu'on appelle
si je comprends bien, d'un côté on nous dit il faut manger mieux, il faut manger bien, il faut manger bio, il faut manger producteur, etc. Puis d'un autre côté, finalement, on va tous chez les hard discounters parce que ça coûte moins cher.
Là, les gens sont confrontés à une contradiction entre ce qu'ils peuvent souhaiter, la manière dont ils peuvent souhaiter s'alimenter et ce à quoi ils peuvent accéder avec le budget qu'ils ont, qui est de plus en plus contraint. Oui.
Merci beaucoup Antoine Bernard de Raymond d'être passé par notre émission. Ça vous inspire quoi tout ça? Vous avez l'air complètement défait, mon cher Jean-Luc.
Oui, parce que revoir la qualité, c'est quelque chose, lorsque vous pénétrez chez votre boucher, vous avez envie de la plus jolie viande de la terre. Et c'est quelque chose. Il n'y a pas de belle cuisine sans beaux produits au départ. Je pense que tout le monde autour de cette table est d'accord. Et il y a, alors bien sûr, il y a des morceaux que l'on peut plus cuisiner, qui sont des morceaux à bas prix. J'ai en tête le collier d'agneau ou des choses de ce style. Mais quand même, le beau foie de veau non congelé, et comme ça, poêlé avec sa petite lichette de vinaigre et sa pointe d'ail, si on est un homme qui aime ça, je crains que quand même la marche arrière soit délicate, soit difficile, parce que quand on achète pour manger, on veut toujours le meilleur. Et ça, c'est quand même, je crois que c'est passé dans la tête de tout le monde.
Olivier Pouls.
Oui, je pense que malheureusement, il y a un écart qui se creuse entre des gens qui ont besoin de manger et pour qui acheter des produits devient un vrai problème. Et à ces gens-là, on ne peut pas en vouloir d'aller bien évidemment chercher le moins cher, que ce soit même chez les hard discounters, même si je ne les porte pas particulièrement dans mon cœur. Mais c'est comme ça, il faut manger. Et donc la question, il n'est pas question de les juger. En revanche, pour les autres, il y a encore heureusement en France des gens qui ont des moyens. Et je pense qu'acheter, faire ses courses, c'est aussi un acte politique, c'est un acte de soutien. Et dire je vais mettre 1 euro, 1,50 € de plus, peut-être pour mon kilo de viande, pour mes légumes, mais en choisissant des produits de qualité dont la filière est contrôlée, on sait que ça va dans la poche de certains producteurs, c'est aussi contribuer à faire en sorte que tout le monde puisse mieux s'en sortir ici et que demain, on ne se retrouve pas avec à nouveau des paysans, des agriculteurs qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas, eux aussi, à joindre les deux bouts, parce qu'eux aussi souffrent beaucoup.
Bien sûr, vous avez raison de le rappeler. En tout cas, à entendre Capucine, c'est vrai que je lui ai fait faire cet exercice un peu difficile. Elle a fait beaucoup de mathématiques cet après-midi, du coup, elle me maudit depuis cet après-midi. Mais c'est vrai que 1,77 € après l'augmentation des prix de l'électricité, contre 1,54 € pour faire cuisiner enfin, je ne vais pas en mourir, 23 centimes de différence. Je m'attendais parce que je n'avais aucune idée de ce que ça allait provoquer. Alors, dans les restaurants, Giuliano, Sperandio, c'est autre chose.
Malheureusement ou heureusement, c'est une autre chose parce qu'on n'est pas confronté à la hausse de la matière première. Parce que si on fait ce métier à ce niveau pour du plaisir personnel et donner du plaisir aussi à notre clientèle et en même temps pouvoir faire vivre cette filière assez importante que sont les producteurs, on négocie pas trop les prix pour avoir toujours un accompagnement du producteur qui soit cohérent toute l'année. Mais la chose plus compliquée, c'est effectivement le fait qu'on a un gaz qui est allumé du matin au soir.
Ah, du matin au soir?
Mais quand on cuisine encore avec des fourneaux à l'ancienne, avec des plaques coupe-feu, qui sont les plaques centrales d'une cuisine, qui sont au gaz, et que ce gaz, on allume le matin, et si on l'éteint à mi-matinée, il ne se rallume plus, parce que la flamme et le bloc est trop chaud, donc c'est impossible de l'allumer. Et comme on a toujours des préparations à faire tout au long de la journée, on est confronté à cette réalité que pour un jugot, ce n'est pas juste 9 heures pour un jugot, c'est 15 heures de fonctionnement au gaz dans une grosse structure comme ça peut être celle d'un restaurant comme le Taïwan,
comme
qui est équipé au gaz.
Mais est-ce que du coup, la direction de Taïwan vous a dit qu'il faut faire des économies, il faut faire attention,
manger cru,
servir des carottes râpées, le radis de Louis de Funès dans le grand restaurant?
Non, l'économie, elle doit être quelque chose de sensé et conscient. Pas juste cette année, ça doit être tout au long de l'année et tous les jours. On doit juste faire des petites économies, pas allumer un four électrique et le laisser allumer parce qu'on aura besoin dans une heure, mais l'allumer quand on a besoin. Et pour les autres choses, c'est très compliqué à dire faites des économies sur l'énergie dans un restaurant ou éteignez le feu si vous n'utilisez pas. Au moment du feu, pendant les services, on a besoin de la puissance de feu tout au long du service et on est obligé à garder parfois la veilleuse allumée et c'est une consommation de gaz. Mais le problème, ce n'est pas juste cette année, c'est toujours. Hein. Moi, je pense que les énergies, il faut faire attention, sont des énergies qu'on aura peut-être, qu'on aura pour toujours. il faut peut-être l'économiser, pas juste pour une question économique du portefeuille, mais pour une question de la planète.
Pour que ça on en revient quand même à la question essentielle du réchauffement climatique.
Exactement.
Et de la protection de la planète.
Mais vous savez, l'utilisation de l'énergie, de cette énergie qui descend en fin de journée, par exemple, il y a plein de plats qui sont nés comme ça, où on allait utiliser la chaleur résiduelle du four du boulanger, parce que il avait fini sa fournée, les gens du village allaient mettre le bekaofa ou les pommes boulangères dans le four du boulanger, justement pour que cette chaleur ne soit pas perdue et qu'elle puisse servir à autre chose.
On va tous aller chez notre boulanger, vous imaginez il y a déjà les files d'attente dans les stations essence, alors si on doit avoir les files d'attente chez les boulangers.
Mais oui, on le fait encore aujourd'hui avec les meringues.
Quand
on
fourre
avec les meringues, avec les petits meringues sèches. Si on le met à faire fin journée dans un four avec une base statique à pierre, cette base statique fait que la meringue le lendemain est prête. Plutôt qu'utiliser un four à 90 degrés pendant 2-3 heures, on utilise la chaleur qui reste de ce four. Mais si vous voyez, si quand vous allez au Maroc, il y a encore des villages où utilisent le four de boulanger pour terminer les cuissons de leur viande, où le paysan vient
et c'est pas plus mauvais.
Au contraire.
Mais non, parce que souvent la chaleur, on aime ça parce que la chaleur, elle cajole. Une chaleur brutale est une chaleur que tous les cuisiniers ont détestée, sauf éventuellement pour saisir une viande à la poêle. Mais autrement, une chaleur qui va durer, qui va s'installer, c'est comme un câlin pour un produit, parce que justement, il n'est pas pris
en
traître.
C'est notre poète.
Il n'est pas pris en traître, le fameux produit. Et donc, cette chaleur caressante va faire que, on va se régaler. Alors, c'est vrai que pour cet hiver, on peut un peu ralentir peut-être ce qui va être plus mitonné. C'est-à-dire que penser à faire réduire une sauce, oui, mais bon, on peut essayer, comme Capucine le disait, c'est-à-dire d'essayer de se servir de la chaleur descendante. On a éteint la plaque et puis on va profiter de cette chaleur encore ambiante pour diminuer la sauce.
On va en parler justement en deuxième partie d'émission. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Voilà donc un beau plateau, non pas de fruits de mer, mais de cuistots avec Giuliano Sperandio, qui est le chef du restaurant étoilé Taïwan à Paris. Olivier Pouls et Jean-Luc Petit-Renaud, mes camarades d'Europe 1 et d'anciennement Europe 1. Enfin bon, cette maison est la vôtre, mon cher Jean-Luc. On parlait du câlin, qui est donc cette douceur qui descend, cette chaleur qui descend au fur et à mesure de la cuisine. Puis il y a aussi la fessée. Hein, puisque quand on saisit une viande, est-ce que je me suis posé la question benoîtement et je vous la pose, est-ce que aujourd'hui c'est moins énergivore de faire un steak frites 3 minutes aller-retour plutôt que un agneau de 7 heures dont on vient de parler?
Bien évidemment. C'est
Giuliano Sperandio. Non, mais comme j'y connais rien, je pose des questions les plus bêtes possibles.
C'est
une question de plaisir, c'est compliqué.
Et après, la bête est vivante aussi. Exactement.
Ce sont deux produits totalement différents. Bien sûr, un c'est plus court que l'autre au niveau de cuisson, au niveau des consommations énergétiques. Mais c'est comme un blond et un brune. Elles sont totalement différentes. Ça dépend quelle femme on préfère. Et au moment de l'année.
Ça, c'est Jean-Luc généralement qui fait ce genre de comparaison.
Non, mais on parle des fessées, on parle des câlins. Oui. C'est toujours cette douceur qui est en cuisine. Là, on peut pas paragoner et mettre sur le même
plan
et même envie un steak tartare.
Donc, ça veut dire qu'on va pas s'interdire de faire des plats longs.
Moi, je pense qu'il ne faut pas s'interdire.
C'est quoi le plat le plus long que vous faites chez Taïwan?
C'est en ces moments qu'on est dans le gibier, c'est le lièvre à la royale. Bien sûr qu'entre préparation, macération et tout, il nous faut 3 jours avant de le servir. Et si on le fait maturer un peu une fois cuit, il nous faut une semaine. Et donc voilà, là on est vraiment dans la période où on a besoin de toute l'énergie possible parce qu'on a vraiment cette lièvre royale qui prend beaucoup de temps.
Olivier Pouls.
Deux petites idées. Alors la première, c'est que si on veut faire des plats à cuisson longue, pourquoi pas, faisons un petit peu plus de quantité, ça permet d'en avoir et de ne pas refaire deux fois.
Mais après, tu prends le micro-ondes et ça aussi, c'est énergivore.
La cuisson au micro-ondes, elle est beaucoup moins énergivore.
Oui.
On n'en a pas parlé, à faire hurler de temps en temps, mais pour certains légumes, si vous voulez faire des soupes, des potages, etc., une cuisson... En ce moment, vous avez les potirons et les potimarrons. Ouais. La cuisson d'un potiron ou d'un potimarron au micro-ondes avec un peu de bouillon de volaille, etc. Ça marche très bien.
Attention, il y a petit Renaud qui est en train d'avoir un AVC. Là.
Non, mais je sais que ça n'a pas le charme de voir ce petit marron dans son bain tranquillement, mais ça marche.
Bien sûr. Et tout ça, il faut savoir un peu le vivre. La cuisine, c'est quelque chose qui se vit, c'est une fable. Et il faut savoir goûter les cuissons lentes, il faut savoir goûter les cuissons instinctives, ou pourquoi pas le micro-ondes exactement, qui est très pratique. Et donc, il faut contrebalancer les choses. Parce que c'est vrai qu'une vapeur parfumée qui sort sous un couvercle d'un plat mitonné, eh bien, ça vous réjouit. Et donc, il ne faut pas s'en priver aussi, sinon on va faire une dépression nerveuse. Donc, il faut aussi se flatter, il faut être heureux. Mais si vous regardez le monde de l'édition, ça a quand même été assez extraordinaire, puisqu'on voulait, à une époque, les éditeurs demandaient les recettes les plus rapides. Comment cuisiner en 3 minutes de pas douche comprise, comme était le surnom, mais donc en trois minutes...
Ça n'a jamais été 3 minutes.
Comment faire la cuisine et puis passer du temps avec ses amis. Et puis aujourd'hui, on est en train de dire, il faut absolument revenir à des cuissons différentes et tout. On est quand même drôlement chahuté. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué de se faire plaisir.
Bon, en tout cas, maintenant, on cuisine, et ça, c'est dans les architectures. Effectivement, avant, il y avait une cuisine et une salle à manger. Maintenant, il y a même une sorte de grande cuisine avec une salle à manger. On cuisine avec ses copains, on met des îlots centraux, des trucs. On fera ça dans une autre émission pour l'architecture d'intérieur. Il y a un micro-ondes chez Taïwan ?
Non, il n'y a pas de micro-ondes. Non, pas parce que c'est pas bon.
Mais
c'est...
chez vous, par exemple, il y en a un ?
Non, pas du tout. Chez moi, il n'y a pas de micro-ondes.
Vader Retro, ça t'annonce.
Non, c'est pas Vader Retro, ça t'annonce. Je n'ai pas grandi avec. Quand j'ai grandi...
Vous avez grandi où ?
En Italie, dans les terres de la Ligurie, donc pas loin de la frontière avec Menton, Nice, dans les terres. Et on avait juste un chauffage à bois. Donc, la maison était réchauffée avec le bois, et on avait l'eau chaude au premier étage uniquement quand le chauffage était allumé, et donc on faisait pas mal de cuissons au feu de bois et à la cheminée, et donc le micro-ondes c'était pas un rituel.
Oui, mais mon camarade Yves Candebord qui partage la table des bons vivants régulièrement avec nous, qu'on peut pas accuser franchement d'être quelqu'un qui galvaude la grande tradition de la cuisine française, me dit, moi le foie gras à Noël, je le fais au micro-ondes, j'ai une recette au micro-ondes. Il n'y a pas mieux pour la cuisson du foie gras. Et c'est beaucoup plus rapide et moins énergivore.
C'est comme les voitures électriques.
Oui, mais non, pour certaines choses, ça marche extrêmement bien. La cuisson des artichauts essayés au micro-ondes, vous la réussissez 100 fois mieux qu'à les mettre dans de l'eau bouillante qui va mettre beaucoup de temps à arriver à température.
Totalement. Il faut juste faire attention à une chose au micro-ondes. Comme les ondes du micro-ondes agissent sur l'eau du produit, il faut juste le surveiller longtemps, parce que si on va trop loin dans la cuisson, comme il fonctionne avec les molécules de l'eau, ça risque, et on ne le voit pas, mais ça brûle de l'intérieur.
Alors, question pour l'Italien que vous êtes. Ouais. Pardonnez-moi de faire ce raccourci un peu rapide. Mais l'autre jour, je cuisais des pâtes.
Ouais.
Bon, on m'a appris à cuire les pâtes à fond, sans couvercle.
Ouais.
Et là, on nous dit, voilà, il faut mettre le couvercle. Mais moi, je ne suis pas arrivé à faire mes trucs, mes pâtes avec le couvercle.
Mais ça déborde.
Et ça déborde, il faut remettre, et on triture, on met sur 6, sur 5, sur 4, sur 8, on ne sait pas.
Non, la chose importante, vous l'avez bien dite, et je pense que c'est un conseil pour tout le monde cette année à la maison, pas cette année, mais toujours, à chaque fois que je rentre à la maison, chez ma mère, je vois un bouillon, une soupe, n'importe quoi, qui bout à fond. Une fois que ça bout, ça bout. Donc, une fois qu'on fait même une blanquette, parce qu'on est en France, dès qu'il prend l'ébullition, on baisse le feu et on laisse mijoter doucement, frémir. Ce n'est pas obligatoire de voir des grosses bulles qui débordent de la casserole. Dès que ça bout, on baisse le feu, que ce soit le gaz ou que ce soit l'électrique, et on laisse mijoter, frémir doucement. Parce que de toute façon, une fois qu'on est arrivé à 90 degrés, on ne peut pas aller plus loin. Sauf si on utilise, je pense que c'est une très bonne idée, pour cet hiver, comme vous l'avez dit tout au début, une cocotte minute.
Ouais. On gagne du temps là aussi.
Exactement, mais là, on coupe.
Parce que ça allait étouffer.
Exactement, il arrive à 120 degrés grâce à la pression du couvercle. Et la cocotte minute, en Italie en tout cas, elle est très, très, très répandue. On l'utilise souvent pour faire du poulpe.
Mais dites-moi,
faire...
c'est pas devenu un restaurant italien quand même, Taïwan?
Non, non, pas du tout. Pas
non,
du tout.
Ça c'est
les raccourcis qu'on fait dès qu'on entend mon prénom. Ah, on va manger des pâtes au Taïwan. Non, non, les Taïwanais restent bien français avec des bases françaises, avec des jus qui cuisent.
Et avec des recettes qui se passent de chef en chef et puis aussi vos créations.
Exactement. Exactement.
Olivier Pouls, on a beaucoup vu, on voit d'ailleurs, pas seulement dans les magazines féminins, mais beaucoup que voilà, c'était l'occasion cet hiver de manger du cru.
Ah, moi, j'adore le cru, j'ai rien contre le cru. Alors, c'est vrai que quand il fait froid dehors, qu'on rentre et qu'on a envie de se réchauffer, on n'a pas forcément envie de manger un tartare ou un carpaccio. Mais ce n'est pas un Italien que je vais dire que le carpaccio n'a pas aussi son intérêt. Et c'est vrai qu'on revient, je pense aussi, autant il y a les
plats mijotés. Alors, il y a le cru et le froid, hein, oui.
Alors, il y a le cru et le froid, évidemment.
Parce que vitello tonnato, par exemple, ça, c'est cuit et longtemps. Déjà.
Alors, le veau, au départ, est cuit, mais il est servi froid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance aussi à moins cuire les légumes qu'on les a cuits auparavant, hein, avant on vous amenait des haricots verts,
mais
évidemment c'est beaucoup mieux. Moi j'aime le cru, mais bon c'est vrai que le ceviche, voilà les carpaccio, les tartares, c'est plutôt des plats, on va dire d'été qu'à mon avis de plein hiver. Mais il faut encore une bonne soupe faite soit au micro-ondes, soit à la cocotte minute. Ça va quand même beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins énergivore.
Jean-Luc Petit-Renaud, vous allez prendre des nouvelles habitudes pour cet hiver ou pas spécialement?
Non. Je pense pas spécialement. Je vais faire attention, comme tout le monde, parce que je pense que c'est normal de faire attention. Mais je n'abandonnerai pas le mijoté. Et donc, en écoutant le chef, on sait que on va pouvoir pousser la cuisson à un moment donné, baisser à un autre moment, en profiter, aller jusqu'à la mi-temps dans la sauce et au creux de l'assiette, dans une sauce un petit peu plus tiède qu'avant. Mais tout ça, je le ferai parce que ben, ça fait partie de ma musique, ma petite musique personnelle. Et je trouve qu'il faut faire très attention de ne pas se déshabiller trop vite et de ne pas oublier ses propres valeurs. La cuisine est un magnifique art et on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour rêver. Et donc, je pense qu'il ne faut pas trahir les choses que l'on connaît dans ce domaine-là.
C'est l'évangile selon saint Jean-Luc, ça. Giuliano Sperandio.
Mais moi, j'aime bien les mots qui dit Jean-Luc. Mais dans la vie en général, faisons attention. C'est la chose qu'il faut faire, attention à tout. Donc, du moment qu'on prend conscience et qu'on est attentionné à faire les choses, on ne se trompe pas.
Et si vous avez la chance, peut-être, d'avoir un feu de cheminée, un feu ouvert chez vous, bah, prenez une grande cocotte, laissez-la traîner à côté du feu pendant toute une après-midi. Vous verrez qu'à l'heure de passer à table, tout sera parfaitement cuit à l'intérieur. Et vous
c'est
aurez
peut-être le moment ou jamais de dire aux autorités que finalement, on peut faire les feux de cheminée parce que au fur et à mesure des interdictions, on ne sait plus si on peut, on ne peut pas, on peut pas.
Déboucher les conduits.
Oui, ça, évidemment. Donc, il n'y a pas que les chamallows qu'on peut faire.
Et très traditionnellement, on laissait traîner des grandes casseroles dans les feux de cheminée. Ça marche très bien.
Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir donné l'eau à la bouche, Jean-Luc Petit-Renaud. Oh là 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 là, quel plaisir de vous avoir eu ce soir. Merci à Olivier Pouls et merci à vous, Giuliano Sperandio. Et donc, effectivement, on va suivre attentivement vos conseils.